Notre Père, merci encore parce que cette journée, c'est celle que tu as faite, comme nous avons pu le dire. Et Père, au travers de Blaise, tu vas encore nous éclairer. De la même manière que ce soleil dehors éclaire la nature, ta parole va éclairer nos cœurs. Et Père, c'est avec joie que nous la recevons, au travers de ton serviteur Blaise. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci David, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ce matin, je suis arrivé, tout le monde souriait, tout le monde était super content. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me suis rappelé qu'il y avait du soleil, en fait. Voilà, et les gens étaient super heureux parce qu'il y avait du soleil. Mais c'est vrai, le soleil, ça peut nous réjouir. Mais en tout cas, j'espère qu'au-delà du soleil, eh bien, vous allez réellement bien. Alors, avant de commencer cette prédication, je voulais simplement vous donner une petite information. Chantal et moi, on va prendre quelques jours de repos lundi, mardi et mercredi. Donc, on ne sera pas à la maison. Donc, si jamais vous m'écrivez ou autre et que je ne réponds pas avant jeudi, c'est normal. Je ne vous mets pas un gros vent parce que je suis mal élevé ou quoi que ce soit. Je ne vous oublie pas. Je vous aime toujours. Mais on prend 3 jours pour se reposer un peu. Et quand je suis arrivé ce matin, Daniel m'a dit « Ah, tu es fatigué, hein ?» J'ai dit « Ah, bah, je fais bien de prendre du repos alors. » Mais voilà, on sera du coup absent lundi, mardi et mercredi. Donc ne vous formalisez pas si jamais je ne vous réponds pas tout de suite à vos messages ou à vos appels téléphoniques. Voilà. Je vous invite à ouvrir votre Bible aujourd'hui dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 7. Première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 7. Et on va lire le verset 7 et ensuite on lira une section un peu plus grande des versets 25 jusqu'au verset 35. Donc 1 Corinthiens chapitre 7 et je commence la lecture au verset 7. Voilà ce que Paul dit dans cette épître aux Corinthiens. Il leur dit « Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu son don particulier, l'un le mariage et l'autre le célibat. » Et ensuite on va faire un petit saut. Et on va aller jusqu'au verset 25. Et voilà ce que Paul continue de dire. Pour ceux qui ne sont pas mariés, je n'ai pas d'indication expresse de la part du Seigneur. Mais je leur donne mon avis comme celui d'un homme qui, par la grâce du Seigneur, est digne de confiance. À cause des détresses de leur présente, j'estime qu'il est bon pour chacun de demeurer comme il est. As-tu une femme ? Ne cherche pas à rompre. N'as-tu aucun engagement ? Ne cherche pas de femme. Mais si tu te maries, tu ne commets pas de péché. Ce n'est pas non plus un péché pour une jeune fille de se marier. Mais les gens mariés connaîtront bien des souffrances et je voudrais vous les épargner. Je vous assure, frère, le temps est limité. Que désormais, ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Et ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient rien. Bref, que tous ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissaient pas. Car le présent ordre des choses va vers sa fin. Verset 32. C'est pourquoi je voudrais vous savoir libre de toute préoccupation. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des intérêts du Seigneur. Son seul souci est de lui plaire. Celui qui est marié s'occupe des affaires de ce monde pour plaire à sa femme. Et le voilà tiraillé de part et d'autre. De même, la veuve et la jeune fille n'ont pas d'autre souci que les intérêts du Seigneur, pas d'autre désir que de se dévouer à lui corps et esprit. La femme mariée, elle, se préoccupe des affaires de ce monde pour plaire à son mari. Je dis cela dans votre propre intérêt, et non pour vous tendre un piège, mais pour que vous meniez une vie bien ordonnée et que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Voilà pour la lecture d'aujourd'hui. Alors, d'après vous, quelle est la phrase que j'ai la plus entendue avant de partir à l'Institut biblique ? C'était pas tout à fait « Trouve-toi une femme », mais c'était pas très loin. La phrase que j'ai le plus entendue avant de partir à l'Institut biblique, c'est « Hey ! Mais peut-être que tu vas te marier !» Et j'étais là genre « Ah ouais, c'est vrai que je vais à l'Institut biblique pour me marier, hein, bien sûr. Je paye 3 ans d'Institut biblique avec l'espoir que peut-être je vais me marier. Hein, » C'était une idée un petit peu étrange. C'est ce qui est arrivé malgré tout, mais les gens sont partis du principe que j'avais un tel désespoir dans ma vie qu'il fallait que j'aille dans un institut biblique pour arriver à me marier. Et je trouve que c'est assez symptomatique de la façon dont on va considérer le célibat et les célibataires dans l'Église, en fait. On va partir du point de vue qu'ils souffrent, ils ont un problème, ils sont un petit peu malades quelque part, et il faudrait qu'ils se marient pour être guéris. Voilà, waouh, là, ils seront super accomplis, ils seront bien, ils seront heureux, etc. Et en fait, moi, ça m'agaçait qu'on me dise ça parce que j'étais très, très, très heureux en n'étant pas marié, en fait. Je suis toujours très, très, très heureux en étant marié, mais j'étais pas du tout malheureux en n'étant pas marié. Et du coup, je comprenais pas pourquoi les gens me disaient ça comme si c'était une quête à réaliser avant la fin de ma vie, et si je la réalisais pas, il allait me manquer quelque chose. Du coup, ce matin, j'aimerais qu'au travers du texte de Paul, on puisse regarder trois caractéristiques du célibat pour apprendre à s'en réjouir et pour glorifier Dieu au travers de cette situation. Alors, il y a peut-être déjà des dents qui grincent intérieurement, mais laissons à la parole de Dieu la place. Et on va voir ce matin que Paul dit que le célibat, c'est un cadeau de Dieu. Il dit que le célibat, c'est une situation passagère. Et enfin, il dit que le célibat, ça permet de s'offrir pleinement à Dieu. Paul dit le célibat, c'est un cadeau. Et en fait, c'est ce qu'on voit dès le verset 7 quand il dit « Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi ». Alors, quand Paul dit ça, il entend « Je voudrais bien que chacun soit seul sans être marié ». Paul était sans doute plutôt veuf que célibataire parce qu'il était au Sanhédrin et pour être au Sanhédrin, il faut être marié. Du coup, Paul avait sans doute été marié et aujourd'hui, quand il écrit, il ne l'est plus et il dit « J'aimerais bien que vous soyez tous comme moi ». Paul, il est content dans sa situation. Il trouve que sa situation, elle est avantageuse. Paul, il n'est pas là à se dire « Ah, je suis un peu malheureux quand même à ne pas être marié ». Paul, il dit « Ma situation, elle est tellement bien que j'aimerais que vous, vous soyez comme moi finalement ». Pas parce que lui, il se pense mieux que les autres, mais parce que sa situation, il la trouve bonne. Mais Paul va faire une concession. Et il va dire « Mais chacun reçoit de Dieu son don particulier, l'un le mariage et l'autre le célibat ». Il y a un biais que nos traductions françaises induisent quand on lit la parole, c'est que quand on pense à un don, on pense à une capacité. On pense à la possibilité qu'on a de faire quelque chose parce qu'on est équipé pour faire cette chose. Or, ce que Paul dit ici, ce n'est pas « vous avez la capacité de certains d'être célibataires et certains d'être mariés ». Parce qu'il y a des gens de toute façon qui sont célibataires qui souffrent. Alors soit ça veut dire qu'ils sont célibataires sans être capables de l'être et du coup, ben, Dieu est assez terrible de les mettre dans une situation qu'ils ne peuvent pas supporter. Et d'autres sont mariés et c'est calamiteux. Et du coup, ça veut dire que Dieu permet à des gens qui n'auraient pas le don du mariage de se marier. Et du coup, ça serait terrible, ça rendrait des enfants malheureux et ça déchirerait des familles. Du coup, c'est une approche un peu étrange. Mais le terme de don ici, ça veut dire quelque chose qui est un cadeau. Une chose qui nous est donnée par Dieu d'une manière imméritée et généreuse. Alors là, il faut faire un tout petit peu de grec, mais ce n'est pas très très gros ce qu'il y a à savoir, mais que le mot ici en grec qui est traduit par un don en français, c'est un mot qui en grec ne veut jamais dire une capacité, mais qui veut toujours dire un cadeau, quelque chose qui nous est donné. Du coup, Paul, ici, il est en train de dire « Chacun reçoit de Dieu son cadeau particulier. L'un reçoit le mariage comme un cadeau, l'autre reçoit le célibat comme un cadeau. » Mais Paul balaye, et je pourrais développer plus parce que j'ai étudié beaucoup la question, mais il balaye d'un revers de main l'idée qu'on soit certains capables d'être célibataires et d'autres qui seraient capables d'être mariés. Paul, il dit « Le célibat, c'est un cadeau que Dieu fait à certains. Le mariage, c'est un cadeau que Dieu fait à d'autres. » Mais il ne dit pas, il y en a qui sont capables d'être célibataires, il y en a qui sont capables d'être mariés. Le mariage et le célibat, tous les deux, chacun d'une manière particulière, sont des cadeaux que Dieu fait à celui à qui il les donne. Et du coup, les deux sont bons. Et du coup, dénigrer l'un ou dénigrer l'autre, ben ça reviendrait à dénigrer ce que Dieu donne généreusement à ses enfants. C'est une grâce. Quand j'étais célibataire, c'était une grâce de Dieu, c'était un cadeau de Dieu envers moi. Et maintenant que je suis marié, c'est aussi un cadeau de Dieu envers moi. Et si c'est un cadeau de Dieu, ben ça veut dire que quand on est célibataire, on n'est pas spécialement célibataire parce qu'on a un problème, parce qu'on n'est pas tout à fait assez bien, parce qu'on n'a pas tout à fait assez bien travaillé, parce qu'on n'est pas tout à fait assez sanctifié ou autre. Si mariage et célibat sont tous les deux un cadeau, on n'est pas célibataire parce que tout simplement on n'est pas assez bien pour être marié. On est célibataire parce que Dieu nous donne cette situation-là comme un cadeau au moment où j'y suis. Le célibat, ça a de la valeur. Parce que c'est un cadeau de Dieu, c'est une grâce que Dieu nous fait. On n'a pas de mal à dire le salut en Jésus-Christ, c'est une grâce. On n'a pas mérité de le recevoir et on est bien content de l'avoir. Mais alors quand il s'agit de dire la même chose du célibat, ouh, Hein, c'est un peu comme les messages dans le métro, faites attention, il y a un espace entre la marche et le quai et vous pouvez tomber. Et parfois, on a du mal à faire ce pas de se dire, oui, le célibat, c'est un cadeau que Dieu me donne. C'est quelque chose de bon pour moi, c'est une vraie grâce, c'est quelque chose que je n'ai pas mérité et que je reçois. Et malheureusement, et c'est triste, je pense, on a souvent une considération un peu moindre, finalement, du célibat dans l'Église. Où parfois, on se dit, ah, mais il faudrait vraiment que tous les célibataires, ils se marient. Il faudrait vraiment que tous les jeunes, ils se marient. S'ils le veulent, et si Dieu veut bien le faire, bien sûr, très bien. Mais le célibat, ce n'est pas une chose mauvaise. Et malheureusement, nous, des fois dans l'Église, on donne une considération assez faible au célibat, et le monde le fait aussi. Et le problème, c'est que le monde, il va dire, mais le célibat, c'est nul. Ah, c'est pas bien, wow, vous avez vraiment pas de valeur si personne vous aime. Et après, il va dire, ouais, mais surtout, mais ne vous engagez pas dans le mariage, parce que le mariage, en plus, maintenant, on vous passe la corde au cou. Ah, qu'est-ce que vous voulez faire ? Alors, d'un côté, on te dit, être seul, c'est nul, mais être avec quelqu'un, c'est pas bien. Du coup, en fait, il faut pas être seul, mais il faut pas être trop engagé non plus. Du coup, en fait, il y a rien qui va. Et le monde est en train de découdre tout ce que Dieu avait préparé en disant le célibat c'est bien et le mariage c'est bien. Et ils disent, bah, le célibat c'est pas très bien, mais le mariage c'est pas très bien non plus. Du coup, il faut être dans un entre-deux où il n'y a pas trop d'engagement. Et c'est pour ça que nous, dans l'Église, on a besoin de redire, de rappeler, de le proclamer, de le dire toujours. Le célibat, c'est une chose qui est bonne. C'est une chose qui est bonne. Alors, sans doute, il y a peut-être des gens qui se disent, oui, mais moi j'en souffre et tout, et ça, on en parle après. Parce que moi aussi, hein, je n'ai pas toujours été marié. Hein. Je ne suis pas né marié. Moi aussi, j'étais célibataire. Moi aussi, j'ai souffert. Donc, je ne dis pas juste ces choses-là comme, bon, ben, vous êtes tout seul, tant pis, débrouillez-vous, soyez content avec ce que dit la parole. Parce que non, je comprends qu'on puisse souffrir. Mais on n'a pas moins de valeur si on est célibataire. Aux yeux de Dieu ou aux yeux des autres, on n'a pas moins de valeur. Et on n'est pas plus accompli si on est marié. Et c'est marrant parce que quand ma sœur a su que j'avais rencontré Chantal et qu'on allait se marier, elle a dit, alors si vous connaissiez ma sœur, vous sauriez qu'elle a beaucoup d'emphase dans les choses qu'elle dit, mais elle a dit à Chantal, ah ben, oh, on était désespérés pour Blaise. Ah vraiment, là tu nous enlèves une épine du pied. Je ne sais pas si tu te souviens Chantal, mais ma sœur l'a dit. Mais ma sœur met souvent beaucoup trop d'emphase sur beaucoup de choses. Après, si ça l'a soulagée, elle, c'est bien, hein. Mais du coup, Paul, il ne dit pas le célibat, c'est une situation à fuir, c'est quelque chose de mauvais, il faudrait y rester le moins longtemps possible. Ce n'est pas un ennemi qu'on doit vaincre, ce n'est pas une épreuve qu'on traverse ou un test de notre foi pour savoir est-ce que vraiment tu es bien attaché à moi, et si tu es bien attaché à moi, je te donnerai quelqu'un pour te marier. Et ce n'est pas une punition de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on n'est genre pas assez saint ou quoi que ce soit qu'on est célibataire. Dans la pensée biblique, en tout cas dans la Nouvelle Alliance, parce qu'il y a un changement entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance sur cette question-là, mais dans la Nouvelle Alliance, le célibat, c'est une chose qui est bonne. Et ce que Paul y dit ici, ce n'est pas juste sa pensée à lui, c'est ce qui vient du Seigneur. C'est ça qui compte, c'est que Paul y transmet ce que le Seigneur lui a mis sur son cœur, lui a donné de dire. Donc on pourrait dire, oui, mais Paul, c'est facile, peut-être qu'il a eu un mauvais mariage, maintenant il est seul, il se rend compte que c'est mieux, et puis il voudrait tous nous enfermer égoïstement dans son célibat. Ben non, il transmet les paroles du Seigneur. Donc ce n'est pas Paul vraiment qui le dit, mais c'est le Seigneur qui le dit au travers de Paul. Et du coup, on est appelé vraiment à valoriser dans l'Église le célibat, on est appelé aussi à valoriser les célibataires et à les encourager à vivre pour Dieu, sans considérer que le célibat il soit anormal ou négatif. De toute façon, c'est toujours normal quand on passe d'un jeune enfant à un jeune adulte, ben, de ne pas être marié tout de suite. Il y a quelque chose aussi de naturel dans le fait de ne pas tout de suite rencontrer quelqu'un et de se marier. Et l'Église doit revaloriser le célibat, encourager les célibataires et surtout montrer les aspects positifs du célibat parce qu'il y en a. Et Paul va donner, à partir du verset 25, quelques indications aussi de pourquoi est-ce que le célibat, c'est bien. Et il va donner un argument que je n'avais jamais vraiment réalisé avant, mais il va dire, mais le célibat, c'est une situation qui est passagère. Alors, je ne vais pas trop développer les versets 25 à 28, même si on les a lus, parce qu'ils se tournent plutôt vers les Corinthiens. Donc juste pour faire un résumé rapide, Paul leur dit, à cause des détresses de leur présente, ben j'estime que c'est bon pour chacun de demeurer comme il est. Et quand il parle des détresses de leur présente, il parle en fait de la persécution qui avait lieu contre les chrétiens. Et il dit du coup, ben finalement c'est plus simple au vu de la persécution de ne pas être marié. Parce que du coup, si vous êtes marié, ben vous risquez de perdre peut-être votre époux ou votre épouse, ou alors ben vos enfants vont peut-être perdre leurs parents à cause de la persécution, ou alors vous allez peut-être perdre vos enfants et tout ça. Donc Paul dit, ben il y a des risques quand même à être marié quand il y a la persécution, et il dit, si vous n'êtes pas marié, vous n'encourez pas ces risques. Donc c'est à ça qu'il fait référence ici, et qui peut-être n'est pas tout de suite pour nous à prendre directement. Mais ensuite, il va dire des choses qui sont pour nous. Et il va dire, je vous assure, au verset 29, frères, le temps est limité. Que désormais, ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Et ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient rien. Bref, que tous ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissaient pas, car le présent ordre des choses va vers sa fin. Alors c'est un peu bizarre peut-être, hein. Peut-être qu'on se dit, mais oula, mais il raconte quoi, Paul? Il veut plus qu'on s'occupe de nos épouses, il veut plus qu'on achète des choses et tout. Ça pourrait paraître un peu farfelu, mais je pense que la pensée de Paul, elle est résumée au verset 31, quand il dit que tous ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissaient pas, car le présent ordre des choses va vers sa fin. Et ce que Paul il dit ici, c'est le célibat et le mariage, c'est quelque chose qui est passager. Parce que de toute façon, même si tu es marié 60 ou 70 ans, au bout d'un moment, tu vas décéder, tu vas être auprès du Seigneur, et ton mariage, ce sera fini. Alors Paul, parce que je ne veux pas non plus vous faire penser que Paul, il banalise le mariage, ça n'a pas de valeur et tout. Hein. Et du coup, le mois prochain, je prêcherai sur le mariage. Et le mois prochain, au mois de mai, je prêcherai pour les ados et tous ceux qui peuvent ni être vraiment célibataires, ni être vraiment mariés, mais qui sont dans une situation un peu d'entre-deux. Donc, dans deux mois, je tiens à ce que les pré-ados et les ados soient là. Mais Paul, il dit, ce que vous vivez là, c'est que temporaire. Même si une vie d'un homme ou d'une femme, c'est peut-être 80, 90 ans, il dit, ce qu'on vit ici, c'est temporaire. À un moment, ça va s'arrêter. On va de toute façon vers la fin des choses. Et du coup, Paul, il montre ici que le célibat et le mariage, ils sont limités à cette terre, ici. Ce n'est pas ça qui doit nous définir en tant que tel. Ce n'est pas une étiquette qui doit nous coller à la peau, notamment le célibat. Parce que ça ne définit pas qui on est, ça ne définit pas notre valeur. Alors c'est vrai, l'aspect passager du célibat et du mariage, ça peut être un passager qui dure toute notre vie. On peut peut-être ne jamais se marier. Mais en attendant, un jour, cette situation-là aussi, elle prendra fin et on sera auprès du Seigneur. Donc Paul, il dit, mais le mariage et le célibat, le célibat, il ne faut pas le fuir parce que de toute façon, c'est passager, même si c'est pour toute une vie terrestre. Et il dit en même temps, le mariage, ça ne sert à rien de courir après comme un dératé parce qu'un jour, ça aussi, ce sera fini. Donc Paul, il donne un peu de relativisation à toutes ces choses-là. Et c'est vrai, notre vie terrestre, ce n'est pas tout pour nous. Ou bien est-ce que ça l'est ? Si ça l'est, peut-être que j'ai besoin de réfléchir pourquoi est-ce que ma vie terrestre, finalement, c'est tout ce qui m'intéresse et pourquoi est-ce que je ne me tourne pas un peu plus vers les choses qui viennent après la vie terrestre. Notre vie, elle a un aspect passager. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. On passe. On passe longtemps, mais on passe. Parce que notre vraie patrie, elle n'est pas ici. Elle est auprès du Seigneur. Et du coup, on est appelé à vivre les yeux tournés vers l'éternité. Si on doit prendre des jumelles, qu'on les utilise pour regarder l'éternité. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est le but de ma vie alors ? Dans quoi est-ce que je m'investis ? Dans quoi est-ce que j'investis toute mon énergie, mon temps, mon argent, tout ce que je suis ? Est-ce que toute ma vie, c'est juste une poursuite du mariage ? Est-ce que je veux juste être marié ou juste avoir des enfants ? Alors, être marié et avoir des enfants, c'est une bonne chose. Mais est-ce que ça, c'est juste le seul et unique but de ma vie, c'est ça ? Si c'est ça, je suis désolé, mais vous allez être malheureux, hein. Parce que le mariage, ça ne règle pas tous les problèmes. Ça, entre guillemets, ça en crée des nouveaux. Non, attendez. Parce que je sais qu'on dit souvent ça et puis on se dit, ah ouais, ma femme, elle va être pénible. C'est très drôle. Je crois que si vous demandez à Chantal, le plus pénible des deux, c'est peut-être moi. Hein. Mais ce que je veux dire ici, c'est que quand on dit ça, ce qui est important de comprendre, c'est ce que Paul dit aussi. C'est qu'on peut souffrir de certaines choses. Mon papa a souffert que ma maman soit malade pendant toute sa vie. S'il n'avait pas été marié, il n'en aurait pas souffert. Alors bien sûr, le Seigneur les a aidés et accompagnés dans cette situation. Mais ce n'est pas dans le sens un peu de dire un peu des trucs un peu simples, un peu gras comme ça, dont on rigole facilement. Hein. Mais effectivement, il ne faut pas que je fasse du mariage un truc, ça y est, c'est le top niveau. Et le jour où j'aurai des enfants et qu'ils seront médecins et avocats, ce sera le top du top niveau. Parce que quand on est dans le mariage, ça ne résout pas tous les problèmes. Il y a de nouvelles choses qui viennent. On a d'autres luttes et d'autres combats. Et du coup, le mariage, ça ne résout pas tous les problèmes. Et si on n'est pas heureux avant le mariage, ce n'est pas le mariage qui va nous rendre heureux. Si on n'est pas heureux avec le Seigneur avant le mariage, il ne va pas nous rendre plus heureux avec le Seigneur. Et je le dis à la fois pour les dames, mais aussi pour les hommes. Parce que des fois, on se dit, il n'y a que les filles qui rêvent au prince charmant. Hein. Je ne suis pas une fille, moi je voulais aussi me marier, j'avais aussi des rêves. Mais est-ce que le mariage, c'est une obsession dans ma vie? Et si c'est une obsession dans ma vie, c'est qu'il y a un problème. Ou bien est-ce que moi, j'arrive à trouver vraiment mon contentement en Dieu malgré mon célibat, par exemple? Alors là, vous vous dites peut-être, mais moi, j'aime vraiment le Seigneur. Je le sers de tout mon cœur. Je donne tout ce que je peux pour le Seigneur. Je donne de mon temps. Je m'investis. Je donne peut-être même aussi de mon argent au travers de la dîme ou peut-être pour soutenir des œuvres missionnaires et tout ça. Et vous vous dites, mais je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Je souffre quand même. J'ai quand même des manques. J'ai quand même des fois envie de me marier. Et puis des fois, j'aimerais avoir aussi des enfants. Je fais quoi? On y arrive. La troisième chose que Paul y met en avant, et c'est celle souvent qui énerve le plus les célibataires d'ailleurs, c'est que ben, le célibat, ça permet de s'offrir totalement à Dieu. Paul, il a dit, l'ordre des choses de maintenant, mariage et célibat, de toute façon, un jour, ça va être fini. Et du coup, vu que ça va être fini, Paul, il dit, ben, moi, ce que je voudrais, c'est que vous soyez libres de toute préoccupation. Paul, il dit, à quoi ça sert, de, entre guillemets, de se casser la tête toute la vie, soit avec le célibat, soit avec le mariage, alors que, en restant célibataire et en étant heureux dans son célibat, ben, on n'a pas toutes ces préoccupations. Paul, il dit, l'état des choses va vers la fin, du coup, ben, qu'on puisse tourner nos regards vers ce qui vient. Puisque si ça, ça va se terminer, portons nos regards vers ce qui ne va jamais se terminer. Et Paul, sans dévaloriser le mariage, encore une fois, et on verra le mois prochain que Paul dit des choses extraordinaires sur le mariage, mais sans dévaloriser le mariage, il montre qu'il y a des avantages au fait de ne pas être marié. Soit d'être célibataire, soit d'être veuf. Parce qu'il aborde les deux types de personnes dans ce qu'il développe. Et il dit, ben, celle ou celui qui n'est pas marié, il se préoccupe seulement des intérêts du Seigneur et de lui plaire. C'est le verset 32. Ça ne veut pas dire que les gens mariés ils se désintéressent de Dieu et qu'ils ne veulent pas lui plaire, mais en même temps, ben, quand on est marié, on essaye quand même un minimum de plaire à son mari ou à sa femme. En tout cas, j'essaye. C'est pour ça que j'ai rasé ma barbe et coupé mes cheveux. Paul dit aussi que celui qui n'est pas marié, il se dévoue corps et esprit à Dieu. Elle ou il se donne vraiment tout entier. Et pour contrebalancer ça, il va dire, mais celle ou celui qui est marié, il a des préoccupations nouvelles, sa famille, ses enfants, son épouse, et tout ce qui va avec. Du coup, Paul, il dit simplement, bah, quand on est marié, il y a, entre guillemets, on a moins de liberté. On ne peut plus tout faire pour le Seigneur parce que, et c'est normal, on doit s'occuper de sa famille, qu'on soit le mari ou qu'on soit la femme. Mais Paul, il dit, du coup, il y a un vrai avantage à être célibataire, c'est qu'on n'a pas, entre guillemets, ces choses ou ces personnes à s'occuper. On peut s'occuper que de Dieu, et un peu de soi quand même, mais que de Dieu. Et Paul, il dit ben, que vivre de cette façon, c'est une chose qui est tout à fait bonne. Le célibat, c'est réellement bon, et Paul, il le précise au verset 35, il dit « Mais je dis cela dans votre propre intérêt, et pas pour vous tendre un piège. » Et parfois, on lit ces choses-là et on se dit « Ouais, mais Paul, il est gentil, ça lui plaisait à lui, mais moi, c'est pas ce que je veux. » Et moi, des fois, quand je parle avec certaines personnes, elles me disent « Toi, c'est facile, t'es marié !» Bah oui, je suis marié, mais j'étais pas marié à ma naissance et j'étais pas marié jusqu'à ce que je rencontre Chantal. Donc je sais ce que c'est aussi d'être célibataire. Mais Paul, il dit, moi je vous dis ces choses-là dans votre intérêt, c'est pour vous, c'est pour votre bien. Et il dit, il cherche pas à tendre un piège à ses lecteurs en les encourageant au célibat et à se donner vraiment à Dieu. Et Paul, il dit ça parce qu'il sait que les gens, ils vont pas forcément avoir dans leur cœur en premier envie d'être célibataire. Mais Paul, il leur dit, mais c'est bien et je suis pas en train de vous tendre un piège. Je ne suis pas en train de vous dire « Venez, venez, venez voir comme c'est bien ici. » Et « Ah, tu t'es fait avoir. » Ben non, c'est pas ça que je dis. Le désir de Paul, et donc le désir du Seigneur qui s'exprime au travers de Paul, c'est qu'on puisse s'attacher à Dieu sans partage. Alors là, vous vous dites peut-être « C'est ça le seul truc que tu avais à nous dire ?» C'est une des raisons fondamentales pour lesquelles le célibat existe. C'est qu'on peut se donner entièrement à Dieu. Et si ça ne nous suffit pas, ben... Ce n'est pas spécialement moi qu'il faut incriminer, ou ni même spécialement Paul qu'il faut incriminer. Mais si ça ne nous suffit pas d'avoir une vie consacrée au Seigneur, c'est nous-mêmes qu'on doit incriminer. Si je ne suis pas content de ça, bah c'est, le problème il est en moi. Il n'est pas dans la parole de Paul ou dans ce que moi je vous dis. Si je ne suis pas satisfait que ma vie soit entièrement pour le Seigneur, ben, il faut que je réfléchisse parce que normalement, on devrait être entièrement satisfait si notre vie est toute pour le Seigneur. Mais Paul dit que c'est, et ça c'est vraiment important, Paul dit, c'est pas un piège, le célibat. On vous fait pas miroiter que c'est bien, et en réalité ça fait mal. Et effectivement, le célibat peut-être qu'il va être passager, d'une façon plus ou moins longue, peut-être qu'on va se marier quand même un jour. Mais être heureux dans notre célibat, ça ne nous condamne pas à plus jamais nous marier. Et des fois, on se dit un peu, oh, je vais essayer de ne pas être trop heureux dans mon célibat. Comme ça, Dieu, il va avoir un peu pitié de moi et je vais pouvoir me marier. Mais si je suis content, il va le savoir et il va me laisser comme ça. Du coup, je ne vais rien dire. Sauf que c'est idiot, parce que si on est heureux dans son célibat, pourquoi on ne veut pas y rester? Puisque si on est heureux, il n'y a pas de raison de ne plus vouloir être heureux. Et de toute façon, même si je dis rien au Seigneur, le Seigneur sait très bien ce qui se passe à l'intérieur de moi-même. Du coup, il y a absolument, c'est absolument pas logique, ni pas très intelligent de se dire « moi, je ne vais pas parler à Dieu de ces choses-là ». Parce que si j'en parle, oh là là, qu'est-ce qu'il va faire? Mais le célibat, il n'a pas été donné par Dieu pour nous punir ou pour nous priver du bonheur, au contraire. Et j'aimerais dire aussi, et je pense que ça c'est une erreur qu'on fait des fois, alors je pense qu'on est bien intentionné quand on dit ça, mais je pense que ce n'est pas vraiment biblique, ben, le célibat, ce n'est pas une salle d'attente. Et parfois, on dit aux gens comme ça, qui ne sont pas encore mariés, « ah, mais Dieu, il utilise le célibat pour préparer ton cœur ». Peut-être, dans une certaine mesure. Sauf que la Bible, elle ne l'a jamais dit. Et on n'est jamais entièrement prêt, et on ne réalise jamais vraiment ce que c'est le mariage, tant qu'on n'est pas marié. Et c'est une réalité, autant pour les bons aspects que pour les aspects qui nous paraissent moins bons. On ne se rend pas vraiment compte ce que c'est tant qu'on n'y est pas. Et du coup, quand on dit aux gens, ben, Dieu, il utilise ton célibat maintenant pour préparer ton cœur, pour qu'à 100% tu sois prêt pour te marier, mais c'est hyper culpabilisant. Si à 60 ans, ou peut-être plus, ou peut-être moins, tu n'es toujours pas marié, tu te dis, je ne suis toujours pas assez bien alors. Mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous vous rendez compte comme ça peut faire du mal à quelqu'un? Alors bien sûr, je sais qu'on dit ces choses-là parce qu'on a envie que les gens se disent que le célibat, ils peuvent l'utiliser à bon escient. Et ça, c'est juste. Mais la Bible dit jamais le célibat, c'est un truc transitoire et ensuite, ça va t'amener au mariage quand tu seras prêt. Paul, il nous dit, au verset 37, si un fiancé a pris en lui-même une ferme résolution, sans y être contraint, mais dans la pleine possession de sa volonté, si la décision qu'il a prise en lui-même est de rester célibataire, il fera bien. Paul, il dit, il y a des gens, ils resteront célibataires toute leur vie, et en plus, c'est volontaire. Donc de dire, le célibat, c'est là pour te préparer, c'est peut-être vrai dans une certaine mesure, mais moi, je ne me risquerais pas à le dire, parce que j'aimerais pas que les gens se disent, ben, j'ai vécu toute ma vie célibataire parce que jamais j'étais assez bien pour me marier. Jamais j'étais assez prêt. Et quand je vois certaines personnes qui se marient, je me dis, ah, il faut, c'est ça, être assez bien pour se marier? Quand je vois certains comportements envers son épouse, ses enfants, je me dis, est-ce que c'est ça qu'il faut être pour pouvoir se marier? Faisons attention à ce qu'on dit. Encore une fois, je ne condamne pas ceux qui l'ont dit, et je pense que même moi, je l'ai déjà dit. Mais faisons attention. Parce qu'on pourrait vraiment faire du mal aux personnes en face de nous, parce qu'elles ne se sentiraient jamais assez bien. Il ne faut pas qu'on fasse planer des faux espoirs sur la vie des gens. Et on dit souvent, ah, les prédicateurs et tout, il faut qu'ils fassent gaffe à ce qu'ils disent parce qu'ils seront jugés plus sévèrement parce qu'ils enseignent. Mais Dieu nous redemandera aussi toutes ces choses qu'on ne dit pas du haut de la chair et qui sont aussi une forme d'enseignement. Donc on doit faire attention à ce qu'on dit aux gens en face de nous. Et du coup, peut-être que là, vous en êtes à vous dire, ben, je suis d'accord, le célibat, c'est une bonne situation. Je suis d'accord que ça vient de Dieu, c'est un cadeau qu'il nous fait. Je suis d'accord que le célibat, c'est quelque chose que je peux vraiment utiliser pour être vraiment au service de Dieu. Mais là, aujourd'hui, j'ai mal. Et j'ai pas mal juste aujourd'hui. J'ai mal depuis des années. Alors maintenant, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que je fais quand je souffre d'être célibataire alors que je me donne vraiment pleinement au Seigneur et que je reconnais les bonnes choses du célibat? Bah, commencez par le dire à Dieu. C'est un peu bête, hein, mais parfois on ressent des choses et on ne les partage pas à Dieu. On ne prie pas à Dieu, on ne lui dit pas les choses qu'on a sur le cœur. Mais Dieu, il prend plaisir au fait qu'on lui ouvre notre cœur. Et si notre situation, elle ne change pas, d'une manière pratique, ben notre cœur peut changer. Si je souffre en étant célibataire alors que j'en vois les bienfaits, je peux demander à Dieu de m'aider à plus souffrir de ces choses-là. Je peux demander ça à Dieu. Je peux lui demander de changer mon cœur, mes attentes et mes sentiments. C'est possible. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on va demander à Dieu d'être heureux dans notre célibat qu'on ne va jamais se marier. Moi, j'étais hyper heureux quand j'étais célibataire, à tel point que quand j'ai rencontré Chantal, je me suis dit « Ah, Seigneur, toi, tu me testes. » J'ai peut-être pas réussi le test, je ne sais pas. Mais n'ayons pas peur de demander au Seigneur de nous aider à être heureux dans le célibat. Parce que ça ne nous condamne pas pour un éventuel mariage. Jamais. Et c'est pas être ingrat, c'est pas dire à Dieu, ah, mais tu m'as donné un truc, mais moi, j'aime pas ce cadeau. C'est simplement dire, mais je me rends bien compte que ce cadeau, il est bien, mais malheureusement, ben, j'en aurais voulu d'autres que tu ne m'as pas donné. Ben, si tu ne me les as pas donnés, aide-moi à être content, avec le cadeau que tu m'as donné. N'ayez pas honte. On a le droit d'avoir envie de se marier, on a le droit d'avoir envie d'avoir des enfants, de fonder une famille. C'est quelque chose qui est bien, c'est un bon désir. Il n'y a pas de honte à vouloir ces choses-là. Le mariage, c'est une bonne chose. Mais je dirais, demandez à Dieu de vous préserver de faire du mariage de votre futur mari, de votre future épouse, de votre futur enfant. Demandez à Dieu de vous préserver de faire de ces choses-là une idole. Parce que des fois, on se dit, le but à atteindre, c'est ça, et quand je serai là, j'aurai tout réussi. Et du coup, on met ça à la place de Dieu, et à la place de chercher Dieu, on cherche que à se marier. Et parfois, c'est terrible parce que ça nous amène à se marier avec le premier venu, avec n'importe qui, avec quelqu'un de pas chrétien, parce qu'on se dit, ah, ça y est, la réalisation de ma personne, elle est là devant moi, dans cette personne. On peut avoir envie de se marier, ça peut être un vrai bon désir qui est sain, mais demandons à Dieu que ce ne soit pas de l'idolâtrie finalement. Que le mariage, ça ne devienne pas notre idole, que les enfants, ça ne devienne pas notre idole. Ou comme disait Marie-Laure tout à l'heure, avoir une maison ou quoi. Que ces choses-là, ça ne devienne pas nos idoles. Parce qu'aujourd'hui, on est appelé à aimer Dieu et à le servir de tout notre cœur. C'est ça qui compte. On n'est pas appelé à chercher à se marier spécialement, mais on est appelé à adorer Dieu, à le servir, à l'aimer de tout notre cœur. Et c'est ça le plus important. N'hésitez pas non plus à partager vos sentiments avec des personnes qui peuvent vous soutenir, qui peuvent prier pour vous, qui peuvent prendre de vos nouvelles, des personnes qui sont sages. Et je dirais aussi, n'hésitez pas à aller vers des gens qui sont mariés et vers des gens qui ne sont pas mariés. Souvent, on n'est pas marié, on se dit, je vais aller vers les pas mariés parce que les mariés, les pauvres, ils sont un peu lourds avec leurs enfants et tout, ils ne comprennent plus rien. Ils sont là genre, mais non, mais c'est très bien le célibat. Allez vers les deux types de personnes et voilà pourquoi est-ce que je vous conseille ça. Parce que les personnes mariées, elles pourront vous aider à démystifier le mariage. Ça ne veut pas dire qu'elles vont vous dire, c'est terrible, ne vous mariez jamais, ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Mais elles vous diront, attention, le mariage, c'est très bon. Mais sois pas naïve. Sois pas naïf, c'est pas en te mariant que tu vas être pleinement accompli. Tous tes problèmes de sanctification ne vont pas être réglés parce que tu vas être marié. Toutes tes difficultés, toutes tes luttes et tes combats, ils ne vont pas tomber parce que tu es marié. Le mariage, c'est quelque chose d'exceptionnel, de formidable. Mais ça ne règle pas tous nos problèmes. Et en même temps, allez vers des personnes célibataires parce qu'elles-mêmes, elles pourront partager avec vous leur expérience aussi. À la fois ceux qui sont bien dans leur célibat et à la fois peut-être ceux qui souffrent aussi, ben ça vous donnera aussi un vis-à-vis et vous pourrez vous encourager l'un et l'autre. Mais allez pas juste vers un seul groupe de personnes si vous êtes célibataire. Pas juste que les célibataires parce qu'ils comprennent bien ou que les gens mariés parce qu'ils vont m'expliquer comment ils ont fait et du coup je vais avoir la formule pour me marier. Allez vers les deux types de personnes. Faites pas du mariage la seule chose importante de votre vie. Il y a une chose qui est extrêmement plus importante, c'est la sanctification. Et plus on est sanctifié, moins on a besoin de se marier pour être heureux. Et une chose encore, rappelez-vous de la souveraineté de Dieu et de sa bonté. Alors vous allez peut-être vous dire, ah mais c'est très facile de sortir des grandes phrases comme ça du haut de la chair. Ça, moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, j'ai souffert quand j'étais seul. Il y a une époque de ma vie où c'était extrêmement douloureux pour moi d'être tout seul. Et du coup, je me suis engouffré dans plein d'histoires qui m'ont mené à rien, avec des personnes qui n'étaient pas chrétiennes. Et du coup, quand je regarde maintenant derrière moi, je me dis, en fait, j'ai vécu toutes ces choses-là parce que je n'étais pas heureux avec Dieu. Dieu, ça ne me suffisait pas. Et c'est le jour où Dieu m'a dit, là, soit tu continues, soit tu t'arrêtes. Mais si tu continues, tu sais que tu pèches et tu pêcheras volontairement. Et j'ai dit, ok, Seigneur, je m'arrête. Mais, entre guillemets, j'ai dit, je te préviens, je m'arrête pas si toi t'es pas avec moi. Parce que si je dois me débrouiller tout seul et me sortir tout seul de mes sentiments, de mes situations, je vais pas m'en sortir. Je veux bien m'arrêter, mais j'y vais que si tu viens avec moi. Et le lendemain, j'avais arrêté. Ça a fait des dégâts auprès de mes amis et tout ça qui n'ont pas compris mes choix, mais c'est pas très grave. Mais Dieu était souverain sur ces choses-là. Et on doit se rappeler de cette souveraineté et de cette bonté de Dieu. Toute notre vie est entre les mains de Dieu. Dieu, il nous appelle à lui faire confiance en toutes choses, aussi pour notre célibat et pour notre éventuel mariage. Et la parole, elle nous rappelle que Dieu, il a écrit pour nous tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie, Dieu les a écrits pour nous. Si le Seigneur veut t'apporter de la joie au travers du mariage, il t'apportera le mariage. Si le Seigneur veut te donner la pleine joie et le plein repos en lui au travers du célibat, il le fera aussi. Dieu, il connaît les désirs les plus profonds de notre cœur. Les plus profonds. Et il connaît surtout bien plus que nos désirs, il connaît nos besoins. Il sait ce qui est vraiment nécessaire. Il savait que ce qui était vraiment nécessaire, ce n'était pas que je trouve quelqu'un de chrétien avec qui partager ma vie. Il savait que ce qui était vraiment nécessaire, c'était qu'il fallait que je sois heureux avec lui tout seul. Alors je ne dis pas que parce qu'on a envie de se marier, on n'est pas heureux avec le Seigneur. Et je ne dis pas que des fois, on ne peut pas être consacré et avoir quand même des souffrances. Mais dans mon cas, et peut-être dans certains autres cas pour d'autres personnes, je n'étais pas pleinement heureux parce que tout simplement, je n'étais pas heureux d'avoir que le Seigneur. Ça ne me suffisait pas, en fait, d'avoir que le Seigneur. Et le jour où j'ai compris qu'en n'ayant que le Seigneur, je pouvais être heureux, eh ben, je n'ai plus besoin de qui que ce soit. À tel point que je ne voulais pas me marier avec Chantal. Enfin, attendez. Des fois, je vais un peu vite dans ma tête. Quand j'ai rencontré Chantal, je me suis dit, j'ai pas envie de m'attacher de nouveau à quelqu'un, j'ai pas envie spécialement de m'engager, parce qu'en fait, je suis tellement bien tout seul que pourquoi est-ce que j'irais m'engager avec quelqu'un ? Alors, ça n'a pas du tout marché, bien entendu, parce que c'était pas ce que Dieu voulait. Mais je veux dire que j'ai pas vu Chantal, je me suis dit, ah ça y est, on va se marier directement, c'est sûr et certain, et là, vraiment, ça va aller bien. Je veux dire, j'étais heureux avant. Je suis toujours heureux maintenant, j'étais toujours heureux pendant qu'on s'est fiancé, quand on s'est préparé au mariage, mais j'ai pas cherché dans Chantal un espèce d'accomplissement de quelque chose qui me manquait. J'étais pleinement heureux avec Dieu, je continue d'être pleinement heureux avec lui, mais j'étais vraiment heureux avant. Et je n'ai pas eu besoin de me marier pour être heureux. Et ça, c'était vraiment pour moi un déclic dans ma vie. C'était que j'ai dit au Seigneur, ben ok, je veux bien tout te donner, te servir et tout, je veux bien être heureux avec toi. Ça ne me pose pas de problème, je compte sur toi pour ça. Et le Seigneur m'a montré que je pouvais vraiment être heureux comme ça. Donc oui, Dieu c'est notre Père. Moi, mon Père, quand je lui ai dit que j'allais me marier, il m'a dit, enfin que j'avais rencontré quelqu'un, on n'a pas décidé de se marier tout de suite, mais quand je lui ai dit que j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit, ah mais c'est très bien. Après je lui ai dit, elle est juive, il me fait, ah ben c'est encore mieux. Mais mon père, il était content pour moi. Et Dieu, il est aussi content le jour où on rencontre quelqu'un, où on peut se marier. Mais ça ne veut pas dire qu'en attendant, Dieu nous tourne le dos. Dieu, il sait ce qu'il nous faut vraiment. Et si dans le célibat, on est parfois triste ou malheureux ou autre, ou désespéré ou découragé, mais Dieu, il connaît ces choses-là et il peut combler ces choses-là dans nos vies. Dieu nous aime vraiment et quand on est célibataire, ce n'est pas Dieu qui nous dit « ben t'es trop nul, du coup je te punis jusqu'à ce que tu sois meilleur ». Ce n'est pas ça. La bonté de Dieu, elle est vraie même quand je suis célibataire et que ça me fait mal. Ce n'est pas le jour où j'ai plus mal que Dieu, il devient bon. Dieu, il est bon dans toutes les situations. Mais du coup, si je suis célibataire et heureux, alors je fais quoi, moi? Parce que tu fais que parler des gens qui souffrent, mais nous, on ne souffre pas, nous, les célibataires heureux. Eh bien, gloire à Dieu. Et je le dis vraiment avec sincérité. Parce que être pas marié, être heureux, être épanoui avec le Seigneur, eh bien, c'est exceptionnel. Vraiment, c'est exceptionnel. L'Église, elle a besoin de célibataires qui sont heureux, et en plus, elle a besoin de célibataires parce que les gens célibataires peuvent aussi s'engager. Mais c'est vrai, si on veut voir l'Église grandir, ça passe aussi par des gens qui ont les possibilités en termes de temps, d'énergie, d'argent, de s'investir. Et quand on est parent ou qu'on a un travail ou qu'on est marié et tout, ben, l'énergie, elle est moindre à un moment. Et du coup, si vous voulez une Église qui est bien, ben, priez aussi pour qu'il y ait des célibataires qui soient heureux dans leur célibat et qui ne passent pas tout leur temps libre à courir après des messages qui leur disent comment trouver l'époux ou l'épouse parfaite, ou qui passent leur temps à sortir en se disant « je vais dans une rencontre chrétienne, je mets mes radars, peut-être mon épouse est là ». Et ça, on l'a tous fait à un moment. J'en suis sûr et certain. Mais gloire à Dieu si vous êtes heureux dans votre célibat. Et c'est vraiment au Seigneur qu'on doit rendre gloire pour ça. Parce que c'est lui qui nous rend heureux quand on n'est pas marié, et c'est lui qui nous rend aussi heureux quand on est marié. Et c'est génial parce qu'un jour, ils seront peut-être comme moi ici à vous dire « ben moi j'étais célibataire, j'étais super content, j'ai absolument pas souffert et vous pouvez vivre la même chose ». Et ça peut être un vrai encouragement pour les célibataires qui souffrent, d'avoir en face d'eux quelqu'un qui leur dit « moi je suis dans la même situation que toi, mais j'apprends à être heureux et voilà comment moi j'apprends à être heureux et voilà ce que Dieu peut faire aussi pour toi ». Et du coup c'est vraiment bien et c'est exceptionnel vraiment d'avoir des célibataires heureux. Et n'ayez pas honte si vous êtes heureux. Des fois, les gens, on leur dit « Non, non, mais moi, je suis bien, je cherche pas trop à me marier. » Tu es sûr? Il n'y a pas quelque part un tout petit peu comme ça, t'aimerais te marier quand même? Mais il y a une différence entre vouloir se marier et chercher à tout prix à se marier. Moi, je voulais me marier quand j'étais célibataire, mais si je m'étais marié 15 ans plus tard, ben, je m'en tamponnais un peu le coquillard. C'était pas trop mon problème, je cherchais pas spécialement à me marier vite. J'avais envie de me marier, mais c'était pas la quête de ma vie. Et du coup, si vous êtes heureux et célibataire, eh ben, ayez pas honte. Parce qu'il n'y a pas de honte à être heureux et célibataire. C'est tout à fait bon et c'est tout à fait sain d'être comme ça. Et pensons pas, du coup, nous, qui sommes déjà mariés ou autres, que tout le monde a envie de se marier, ou que tous les gens de l'église, par exemple, ou de nos amis qui ne sont pas mariés, ben pensons pas qu'ils se sentent, ah, ils souffrent, ah, ils sont malheureux et tout. Ben non, peut-être pas. Demandons plutôt aux gens pour eux, comment est-ce qu'on peut prier pour eux? Ben, est-ce que tu aimerais te marier? Ben, est-ce que ça te pèse? Oui, non, ben, je prierai différemment. Si tu me dis, oui, ça me pèse, ben, je vais prier pour que le Seigneur te donne de la paix dans la situation maintenant, et que plus tard, eh ben, tu puisses te marier. Et puis si tu me dis, ben, non, ça ne me pèse pas spécialement, j'aimerais bien, ben, je dirai au Seigneur, ben, gloire à toi, parce que ces personnes-là sont heureuses, et je te prie que le jour où tu l'auras voulu, ben, tu leur fasses un nouveau cadeau du mariage avec une personne qui t'aime, pour qu'ils puissent te servir à deux ensemble. Mais partons pas du principe que ah ben, X, il est célibataire, il souffre, je vais prier pour qu'il se marie. Si lui, son désir, c'est de rester célibataire pour servir le Seigneur, ben, vaut mieux que vous priez pour ça que pour qu'il se marie. Parce que s'il ne sait pas ce qu'il veut, ce n'est pas forcément trop utile. Si vous êtes célibataire et heureux, et si vous êtes célibataire tout court d'ailleurs, engagez-vous pour le service du Seigneur. Parce que Paul, il dit, quand vous n'êtes pas marié, vous avez tout votre temps pour le Seigneur. Alors, si ça ne vous suffit pas, je crois qu'il faut le dire à Dieu. Et si ça vous suffit, gloire à Dieu aussi. Mais la première raison pour laquelle Dieu y permet le célibat, ben c'est pour qu'on puisse avoir du temps aussi pour lui. Encouragez ceux qui souffrent et ceux qui se questionnent. Parce que je comprends que quelqu'un de marié comme moi, ce ne sera pas forcément l'oreille à laquelle on veut se confier quand on est célibataire et qu'on a mal. Parce que des fois, on se dit, j'ai plus envie de me confier à quelqu'un qui traverse la même situation que moi. Même si, n'oubliez pas, tous ceux qui sont mariés ont été un jour célibataires. Ils savent ce que c'est aussi de passer par là. Mais si vous êtes heureux, encouragez les autres. Soutenez-les, pardon. Et soyez vraiment des amis, des frères et des sœurs fidèles pour eux. Et je dirais aussi, n'oublions pas qu'il y a une vraie souffrance qui peut naître plus l'âge passe. Moi, j'ai des amis à moi qui approchent la quarantaine, qui ne sont pas mariés, qui voudraient se marier. Et qui souffrent et qui me disent, mais pourquoi est-ce que j'en suis là? Alors moi, je n'ai pas de réponse à ces questions-là parce que je ne suis pas Dieu et je ne peux pas dire pourquoi ils en sont là. Mais ce que je peux leur dire, c'est que oui, la bonté de Dieu et la souveraineté de Dieu sont vraies, elles existent, on peut être heureux, même en vieillissant et en étant célibataire. Et je dirais, on a vraiment besoin de prier pour ces personnes parce que ce que moi j'ai vu avec certains de mes amis, c'est qu'au bout d'un moment, on se dit, ben si Dieu, il n'est pas fichu de me donner quelqu'un de chrétien, ben tant pis, je me marierai avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Parce que je suis tellement désespéré et je cherche tellement à me marier que si je ne peux pas me marier avec quelqu'un de chrétien, ben tant pis, je me marierai avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et ça, c'est encore pire que d'être seul. Parce qu'on est beaucoup plus malheureux dans un mariage disparate que quand on est seul et qu'on peut servir le Seigneur. Et c'est jamais sans conséquence de s'engager dans une relation où l'un est chrétien et l'autre non. Le célibat, c'est foncièrement bon parce que c'est un cadeau de Dieu. Et de toute façon, ce qu'on vit ici, on l'a vu, ben c'est que passager, un jour, on sera auprès du Seigneur et le mariage ou le célibat, ils seront derrière nous, on n'y pensera plus. Du coup, le célibat est bon parce qu'il nous permet de nous donner tout entier pour le Seigneur. Après, quand on est marié, on peut toujours continuer à servir Dieu tout entier, mais c'est un tout entier qui est un peu différent quand même, parce qu'il y a d'autres responsabilités et le Seigneur nous demande aussi de nous occuper pleinement de notre famille. Et ça fait partie de notre ministère quand on est parent. Mais le célibat permet vraiment de se donner tout entier pour le Seigneur. Il y a une certaine souffrance qui peut rester, qui peut provenir du célibat. Et cette souffrance, on ne doit pas l'évacuer en disant « Écoute, la parole, elle dit, t'as qu'à être content et servir le Seigneur. » Parce que ça, ce n'est pas une bonne chose. On doit faire attention à cette souffrance. On doit s'occuper des gens qui souffrent. On doit les encourager, prier pour eux pour qu'ils soient vraiment heureux dans leur relation avec le Seigneur. Et leur rappeler qu'on peut être consacré au Seigneur et ressentir quand même parfois une certaine souffrance. C'est pas « Ah, je souffre, oh purée, je ne suis pas encore assez consacré. » C'est pas, ça ne marche pas comme ça. On peut être tout à fait consacré au Seigneur et parfois avoir quand même des relents de souffrance, vouloir se marier et avoir des enfants. C'est jamais une honte. Et d'ailleurs, Paul, il ne dit pas qu'il faut étouffer nos désirs ou que se marier, c'est mal. Paul, il dit « Mais si tu peux te marier, marie-toi. Mais si tu ne te maries pas, je pense quand même que c'est mieux pour toi. » C'est ça que dit Paul. Mais il dit jamais, bah, si tu peux te marier, fuis comme la peste le mariage. Paul dit, si tu peux te marier, marie-toi, c'est une bonne chose, tu ne pêches pas en faisant ça. Donc il n'y a pas de honte à vouloir se marier aussi. Étouffons pas nos désirs, mais apprenons à être heureux avec le Seigneur dans la situation présente. Que ce soit le célibat ou que ce soit le mariage, qu'on apprenne à être heureux avec le Seigneur dans cette situation. Parce que si je ne suis pas heureux avec le Seigneur dans une situation X, ce n'est pas en étant dans une situation Y que je vais être plus heureux avec le Seigneur. Parce qu'être heureux avec le Seigneur, ça ne dépend pas particulièrement des situations qu'on traverse, mais ça dépend de qui Dieu est pour nous. Si on est heureux de son célibat, il ne faut pas être gêné. Il ne faut pas que nous, qui sommes mariés ou autres, on pense que les célibataires heureux sont des pseudo-célibataires heureux et qui font juste semblant. Il y a peut-être des célibataires vraiment heureux, et c'est exceptionnel quand on est dans ce cas de figure-là. Quelle que soit notre situation, que le Seigneur qui connaît nos besoins et qui nous aime, que ce soit lui qu'on aime de tout notre cœur et qui nous réconforte, et qu'on ne place pas notre espérance de réconfort, de joie ou de bonheur dans le fait d'être marié, mais qu'on puisse le placer tout entier dans le fait qu'on appartient au Seigneur. Alors, je ne suis pas en train de vous dire le jour où vous allez être entièrement heureux avec le Seigneur, vous allez vous marier comme ça a été le cas pour moi, parce que ce ne sera peut-être pas comme ça pour vous, mais on peut toujours être heureux avec le Seigneur, marié ou pas marié, enfant ou pas d'enfant, on peut être heureux avec le Seigneur. Ça n'empêche pas que des fois on a des luttes et des combats, qu'il faut les remettre au Seigneur, mais qu'on n'ait jamais honte de sa situation, de ce qu'on ressent, et qu'on puisse vraiment dire au Seigneur, bah, malgré ces choses-là, je veux m'attacher à toi et je veux apprendre à être heureux, malgré les choses que j'aimerais et que je n'ai pas, parce que ce que tu m'as donné, c'est un cadeau, c'est une grâce que tu me fais, et je veux vivre cette situation comme ça. Que le Seigneur puisse nous aider à développer ces prières-là dans notre vie pour qu'on soit vraiment heureux, épanoui, joyeux avec lui, qu'on soit marié ou qu'on soit célibataire. Et pour le mariage, le mois prochain, j'en parlerai donc. Si vous vous êtes senti moins concerné par la prédication sur le célibat, il y aura une autre prédication qui vous concernera peut-être plus sur le mariage le mois prochain. Mais dans l'un comme dans l'autre, on peut être heureux avec le Seigneur. Je vais simplement prier courtement pour terminer. Père éternel, je te remercie parce que c'est vrai, Paul le dit, on reçoit à chacun de toi un cadeau particulier, le célibat ou le mariage. Et les deux sont bons, les deux sont saints, les deux proviennent de toi et c'est vraiment une grâce que tu nous accordes. Je te demande, Père éternel, pour que chacun d'entre nous ici, on puisse apprendre à être heureux dans la situation dans laquelle nous sommes. Il y a des personnes célibataires, il y a des personnes qui sont mariées, il y a des personnes qui ont perdu leur conjoint ou leur conjointe, il y a des personnes qui ont un jour divorcé. Que chacun d'entre nous, on puisse vraiment apprendre à être pleinement heureux avec toi, que tu sois la source de notre joie, pas notre situation, pas l'accomplissement de notre propre volonté, mais que toi, tu sois vraiment celui qui nous donne toute la joie, qu'on puisse vraiment être heureux et comme disait Marie-Laure tout à l'heure aussi à la minute des enfants, qu'on ne passe pas notre temps à se plaindre de ce qu'il y avait avant ou à regarder à ce qui va venir comme si c'était mieux, qu'on ne passe pas à côté du présent mais qu'on apprenne à le vivre avec toi et que toi tu nous donnes vraiment tout ce que tu veux nous donner dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Veuille panser nos cœurs blessés parce qu'on a sans doute certains d'entre nous des souffrances qui sont là, qui existent, qui sont réelles et qu'il ne faut pas cacher, qu'il ne faut pas divulguer. Qu'il faut justement partager, que tu puisses apporter vraiment le réconfort, la joie, la paix dans le cœur de ceux qui en ont besoin. Et pour ceux qui sont heureux, nous te rendons gloire et nous te demandons de continuer à donner cette joie, ce bonheur à toutes ces personnes. Que tu sois le seul honoré et glorifié dans notre vie de tous les jours. Amen.